Can McCann. Une fois il était, une fois il n'était pas. Il y avait une fois à Bagdad, dans le lointain Moyen-Orient, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, vivait un vizir qui avait un jardin merveilleux, dont la réputation dépassait les murailles de la ville. Ce jardin était merveilleux, mais personne ne l'avait jamais vu. Oui, personne. Sa réputation allait par-delà les murs, par-delà la cité, par-delà le royaume, mais nul n'y était entré. En effet, le vizir avait toujours interdit l'entrée de son jardin. Et une grande armée de ses gardes s'y surveillait jour et nuit le jardin. Oh, toutes sortes de bruits, de rumeurs circulaient dans la ville, sur les splendeurs, l'origine mystérieuse, voire l'origine magique de ce jardin. Et comme quoi même, il y aurait des djinns, des petits génies féeriques qui le peuplaient. Oh, les suppositions les plus folles allaient bon train. Et bon nombre de conversations, voilà, allaient, venaient le soir au sujet de ce fameux jardin. Un soir, Abdel El-Khor, fils d'un riche marchand, le marchand Abdel El-Krim. Eh bien, ce soir-là, Abdel El-Khor, le jeune homme, était là. Il assistait sous l'arbre à palabre à une de ces nombreuses discussions sans fin sur les beautés, les mystères du jardin du vizir. Oh, arrêtez de parler pour rien. Mais vous ne savez rien, on ne sait rien. Le mieux, c'est d'aller y voir. Moi, je suis prêt à rentrer. Je suis prêt à entrer dans le jardin et à y revenir. Et revenir vous dire ce que j'ai vu. Mais comment ? Mais tu sais bien que le jardin est surveillé par 100 gardes, par les 100 gardes du vizir. Ce que tu dis est impossible. Oh, bah, vous verrez bien. Je parie 1000 piastres d'or que j'y arriverai. J'irai la semaine prochaine et vous verrez. Quand je reviendrai, je vous raconterai. Le lendemain à midi, lorsque le soleil est au plus haut, au plus chaud et que tous les habitants de la ville font la sieste dans la fraîcheur de leur maison, le jeune homme met son plus bel habit, son bel habit vert orné de perles et d'or. Puis, il se dirige vers le palais du vizir. Le palais du vizir était tout en haut de la ville, tout en haut des murailles. Le jeune homme remonte les rues, les ruelles désertes, inondées de chaleur, et petit à petit, ses pieds le mènent aux portes des murailles du palais. Il longe les murailles, il sait où il veut aller. Il continue, et rapidement, il arrive à un endroit où les murs sont désormais recouverts d'épais buissons d'épines. Des aubépines, des églantiers qui piquent et qui empêchent l'abord du mur. Petit à petit, le sentier se resserre de plus en plus. Mais le jeune homme avance lentement, surtout veillant à ne pas accrocher son bel habit vert afin qu'il ne s'abîme pas. Visiblement, pour quelqu'un qui le verrait de l'extérieur, on se dirait que celui-là, il sait où il va. Et effectivement, c'est bientôt à quatre pattes qu'il doit continuer à avancer. C'est alors qu'il découvre une grille rouillée, remplie de ronces et d'orties. Il la pousse, difficilement, elle s'ouvre, elle grince. Abdel El-Khor tend l'oreille. Il écoute. Non, c'est bon, personne ne vient. Ah, il avait bien raison. Cette entrée était ouverte et elle n'était pas gardée. De l'autre côté de la grille, lorsqu'il entre dans le jardin du vizir, c'est tout un fouillis de végétation. Il marche, il avance, il fait attention là où il met ses pieds pour ne pas faire craquer du bois, des épines. Mais petit à petit, la végétation s'éclaircit. Et au fur et à mesure qu'il avance, petit à petit, les buissons, les arbres s'organisent, s'alignent. Abdel El-Khor se retrouve maintenant au milieu d'un vrai jardin. Il avance sous une magnifique allée d'arbres, aux feuilles brillantes, luisantes. Des massifs de fleurs apparaissent. Il va de beauté en beauté, d'émerveillement en émerveillement. Il découvre ici, là sur la droite, une source d'eau vive qui chante. Un peu plus loin, un beau bassin cerné de fleurs et de tonnelles. Puis, tandis qu'il avance, voilà que devant ses yeux, il découvre un grand amphithéâtre de verdure et de fontaines, des parterres de lys, de roses et de pivoines autour d'un petit lac bleu. Le jeune homme en a le souffle coupé. Oui, ce jardin est décidément plus beau que tout ce que l'on peut en dire partout dans le royaume. Abdel El-Khor respire les parfums, des parfums qui remplissent son nez, sa tête, qui l'étourdissent. Il écoute le murmure de la brise dans les branches. La fatigue, petit à petit, le prend. L'ivresse, devant tant de beautés qui lui font tourner la tête. À ce moment-là, il s'allonge. Il s'allonge là, au beau milieu d'une pelouse fleurie, et petit à petit le sommeil le prend. Le jeune homme dort, il dort longtemps, un bon moment. Il dort encore lorsque la fille du vizir, la princesse Boudour, arrive dans le jardin, comme elle le fait chaque jour. Elle ne tarde pas à voir qu'il y a quelque chose de bizarre au milieu de la pelouse. Elle s'avance. Elle regarde, elle aperçoit le jeune homme endormi. Son premier mouvement serait de... elle va appeler à l'aide, mais... Elle se ravise, elle se retient, et curieuse, elle s'approche. Et elle contemple. Elle contemple ce beau jeune homme. Ce jeune homme est habillé d'un bel habit. Un bel habit vert, un bel habit de prince. Le cœur de la jeune fille bat. Alors elle avance au milieu de ses suivantes. Et ses suivantes se mettent à arriver en babillant, en entourant le dormeur comme un essaim d'abeilles. Oh, regardez comme il est beau! Oh, qu'il est joli! Oh, regardez son bel habit! Et ses cheveux! Qu'il est calme et paisible! Quel bel homme! C'est précisément à ce moment-là qu'une guêpe vient se poser sur le nez du dormeur et le pique. Le jeune homme se réveille en sursaut. Il se redresse et voilà qu'il se retrouve au beau milieu d'un cercle de jeunes filles qui se mettent à pousser des cris, à hurler et qui se sauvent dans toutes les directions. Enfin, surtout en direction du palais du vizir. Mais l'une des jeunes filles ne peut pas avancer. Elle ne peut pas courir, car elle boite. Oui, elle boite. Abdel El-Khor prend alors le temps de la regarder. Il est étonné, bouche bée. Il regarde les yeux, la beauté de son visage, ses cheveux au burn, la douceur de ses lèvres et la bonté qui se dégage d'un tel visage. Mais il ne peut rester ainsi à la contempler. Il sait qu'il vaut mieux ne pas rester trop longtemps ici. Alors, vite, vite, il file. Il court aussi vite qu'il peut vers la grille et s'en retourne chez lui. Oh, son nez a enflé comme une tomate après la piqûre d'une guêpe. Il se met au lit. La fièvre le gagne et sa tête enfle, enfle, devient aussi grosse qu'une pastèque. Les médecins sont appelés à son chevet et, ne sachant que faire, lui ordonnent de se reposer. Pendant ce temps, la princesse Boudour a regagné le palais du vizir en boitant. Elle a rejoint sa chambre et se met à sangloter. On appelle alors son père. « Ma fille, lumière de mes yeux, mais que t'est-il arrivé ?»« Rien, rien, mon père. Mais je sais maintenant pourquoi vous m'avez tenue ici, enfermée dans ce jardin. Je sais désormais que jamais aucun homme ne voudra de moi. »« Mais pourquoi donc, ma fille ? Pourquoi dis-tu cela ?»« Parce que je suis une boiteuse. Je le vois bien. » « Qu'est-il arrivé ? Qui t'a dit cela ? » dit le père. C'est à ce moment-là qu'une des suivantes de la princesse parle au vizir et lui raconte la présence de ce beau jeune homme venu dans le jardin. C'est sûr que c'est lui qui a fait une si forte impression à la princesse Boudour. Oui, alors là, le vizir enrage et lui prend une violente colère. Il fait d'abord appeler le chef de ses gardes. Il le traite d'incapable et il l'envoie fouiller le jardin de fond en comble. Les gardes ont beau sillonner le jardin en tous sens, mais ils ne trouvent rien. Dans tous les recoins, rien, rien. Et puis les jours passent. La princesse est toujours d'une grande tristesse. Les larmes ne quittent pas ses yeux. Elle ne pense qu'à ce beau jeune homme à l'habit vert. Quant au vizir, il le maudit. Ce jeune homme qui a tant troublé l'esprit de sa fille. Pourtant, quand il voit que sa fille est si triste depuis si longtemps, il se décide à agir. Alors, sur les murs de la ville, il fait placarder de grandes affiches, demandant à celui qui a pénétré dans ses jardins, malgré l'interdiction, de bien vouloir se présenter au palais. Et il garantit que l'homme qui s'y est introduit, eh bien, il serait reçu comme un prince, on ne lui ferait rien. Vous imaginez la tête des amis du jeune homme Abdelkor, lorsqu'ils ont vu les affiches. Ils se précipitent chez lui, mais on lui dit que leur ami n'est pas là, qu'il est absent. En fait, Abdelkor est bien là, il est toujours enfermé dans sa chambre, le visage tout enflé, tout tuméfié, enfoui sous des bandages, des pansements. C'est évident, vu qu'il n'a pas pu sortir, il n'a pas vu les affiches du vizir. Si bien que, vu que personne ne se présente au château, le vizir, eh bien, pense vraiment qu'il s'agit d'un voleur qui serait venu par hasard. Pendant ce temps-là, la princesse Boudour parcourt tristement chaque jour les allées du jardin. Chaque jour, elle est attirée un peu plus vers la pelouse. Où elle a vu le beau jeune homme. Mais voilà qu'un matin, elle est intriguée par un petit objet à demi caché, oui là, sous une touffe d'herbe. Elle se penche. Bon, c'est une pantoufle en verre, une pantoufle verte, brodée d'or. Son cœur bondit. Elle attrape la pantoufle, la porte aussi vite qu'elle le peut à son père et elle le supplie d'en faire rechercher le propriétaire. Le vizir la fait présenter à tous les savetiers, vous savez, ceux qui fabriquent les sabots, et à tous les cordonniers, ceux qui font les chaussures dans la ville. Et finalement, un vieux cordonnier leur dit « Je reconnais cette pantoufle, c'est moi qui l'ai fait fabriquer. » Pour Abdelkor, le fils du marchand Abdelkrim. Aussitôt, le vizir envoie ses gardes chez Abdelkrim, leur ordonnant de ramener le jeune homme mort ou vif. Les gardes entrent chez lui et il le trouve en train de finir sa toilette. Il vient tout juste d'enlever son bandeau, car sa tête et son nez venaient de retrouver un aspect normal. Le jeune homme prend son bel habit noir, brodé d'or et d'argent. Un habit triste, mais un habit qui lui va si bien. Et les gardes lui ordonnent de les suivre immédiatement chez le vizir. Le vizir le reçoit, un grand apparat, entouré de ses courtisans, de ses meilleurs conseillers, de ses médecins, bref, de toute la cour, quoi. Abdelkader tremble de peur. Il sait bien qu'il a bien fait de mettre son habit noir, son habit de deuil. Ses jours sont comptés, je dirais même ses heures. Sa tête ne tient qu'à un cheveu. Abdelkader, je t'ai fait venir parce que tu es celui qui, malgré mes interdictions, est entré dans mon jardin, dans mes jardins. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Tu es entré et tu as bouleversé ma fille, la princesse Boudou. Tu comprends que ce crime doit être puni, et sévèrement. Abdelkader comprend qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre. Seigneur, je comprends, mais permettez que je vous dise ceci. Ce qui se passe aussi, c'est de votre faute. Si vous n'aviez pas interdit d'entrer dans vos jardins, je n'aurais pas eu la curiosité de les visiter. Et je n'aurais pas rencontré la princesse. En tout cas, je n'imaginais pas être la cause d'un quelconque désagrément pour la princesse et de lui causer tort. Je suis prêt à accepter toute punition. En fait, Seigneur, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Je voudrais bien savoir pourquoi vous interdisez l'entrée de ces si beaux jardins. Eh bien, je vais te répondre. C'est parce que ces jardins, je les ai réservés à ma fille. Je veux qu'elle vive dans ce paradis. Ce paradis préservé de la dureté du monde extérieur. Car tu as pu voir. Tu as pu voir quelle boîte. Mais Seigneur, c'est tout le contraire. Enfin, elle aura bientôt fini, tôt ou tard, par découvrir le monde tel qu'il est, avec ses horribles créatures. Sans y être jamais préparé. Mais d'ailleurs, mais quelle importance! Mais ça n'a pas d'importance, quelle boîte, pour une créature telle que votre fille, aussi belle, aussi merveilleuse, de beauté, de bonté et d'intelligence. Voilà, ce que j'ai dit est dit. Je n'ai rien d'autre à rajouter, Seigneur. Je suis prêt à écouter votre sentence. Le vizir regarde un long moment le jeune homme, puis, ressentant chez lui une grande sympathie, une grande intelligence, le vizir se met à parler. Et le vizir lui dit : Eh bien, écoute. Pour ta punition, je te condamne à épouser ma fille, la princesse Boudour. Interloqué, éberlué, bouche bée, Abdelkader ne sait que dire, mais oh, il se le détend, il souffle. Mais Seigneur, cette punition, ce n'en est pas une. C'est un vrai bonheur que d'épouser votre fille. Elle est si belle, si douce. Suis-je bien digne de votre fille ? Mais tu sais qu'elle est boiteuse, lui dit le vizir. Mais quelle importance, Seigneur ! Sa beauté et sa bonté d'âme m'intéressent mille fois plus. Alors, on part chercher la princesse Boudour dans ses appartements. Quand elle arrive, elle comprend. Elle comprend ce qui s'est passé. Et voyant le beau Abdelkader, son visage s'illumine. À partir de ce jour, le vizir a appelé son futur gendre l'étoile de son royaume. On a célébré les noces, auxquelles ont assisté le sultan, sa cour, ses courtisans, ses médecins, et la ville entière. Une fête merveilleuse a été tenue dans les jardins. Les jardins se sont embrasés de couleurs, de fleurs et de feux d'artifice magnifiques. Toute la ville de Bagdad a été invitée, heureuse de découvrir ces beaux jardins. Et je peux vous dire que les cadeaux de mariage sont arrivés par milliers. Mais parmi eux, il y en avait un qui a attiré l'attention du jeune homme. Oui, parmi eux, il y avait une bourse, une petite bourse. Et à l'intérieur, 1000 piastres d'or. C'était le pari qu'Abdelkor avait gagné. Alors, il a apporté la bourse à la princesse Boudour et lui a dit « C'est notre plus beau cadeau de noces, car il est à l'origine de notre bonheur, ici, dans ce jardin de sagesse, dans ce jardin du bonheur. » Khan Makan, une fois il était, une fois il n'était pas. Ici, mon conte s'achève. Telle je vous l'ai donnée, afin qu'à votre tour, il puisse rouler vers d'autres oreilles pour que vous le racontiez. Au revoir, à demain.